This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2012 et c'est l'épisode numéro 81. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets de manière suffisamment complexe pour que ça soit intéressant, mais aussi suffisamment simple pour que ça puisse intéresser tout le monde. Et ça, c'est important. Et quand je dis tout le monde, je pense à vous, chers auditeurs qui nous écoutez dans votre train, dans votre bus, dans votre voiture, dans votre bain aussi, pourquoi pas. On sait que certains écoutent certains podcasts sous la douche. Mais peut-être que vous nous écoutez ailleurs, et c'est très bien. Et donc, si je dis ça, c'est parce que c'est important, et aussi parce qu'il y a la chatroom qui nous écoute aussi en direct. La chatroom est là, ponctuelle et nombreuse, comme à son accoutumée, comme à l'accoutumée. Et j'espère que les sujets d'aujourd'hui vous plairont. On a un petit peu de bad buzz chez Gallimard et pour notre cher président. On a une histoire de Google qui espionne les iPhones, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui dit des choses sur les réseaux sociaux et le filtrage, on a du lion des montagnes ou du puma et plein d'autres news, notamment quelques petites choses sur le Mobile World Congress qui commence en ce moment en Espagne. Et pour m'accompagner, pour discuter de tout ça, j'ai deux invités de prestige, à commencer par Guillaume alias Statosphère. Comment vas-tu, Guillaume ?
Salut Patrick, ça va très bien.
C'est quoi ton troisième rendez-vous tech ? Ça y est, t'es un habitué maintenant.
C'est le quatrième.
Quatrième, oui. Bigre. Bon, enfin, c'est vrai que t'es là, t'es présent régulièrement de toute façon avec la Statosphère que les auditeurs connaissent bien. Donc, j'espère que tu vas nous éclairer de tes lumières statistiques.
Bon, je vais essayer.
On va essayer. Et on a aussi pour sa première apparition presque magique dans le rendez-vous tech, 2020 qui se joint à nous. J'espère que tu vas bien. Ça va ? T'es pas trop impressionné par l'idée de parler tech pendant deux heures ?
Ah bah je sais pas de quoi, je sais pas, je vais complètement improviser quoi.
T'inquiète pas, le rendez-vous tech c'est généralement un petit peu comme ça que ça marche.
D'accord.
On écoute, on dit ce qu'on pense et on improvise. Généralement ça se pose pas trop mal.
Ok. Cool.
Alors, 2020, je vais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a encore, c'est un jeune homme qui est très actif sur la toile, qui était aux États-Unis, qui a travaillé pendant un moment avec notre camarade Loïc Lemer. Ouais. On s'était parlé pendant le web déjà, pour ceux qui ont vu les podcasts qu'on avait fait là-bas, le Zapcast qu'on avait fait là-bas. Mmh. Et tu es aujourd'hui, en plus d'être actif sur la toile, tu as aussi une boîte de production et tu fais le grand WebZé.
C'est ça.
Donc, le grand WebZé sur France 5. Uh-huh. Et donc, voilà, tu es quand même pas un inconnu de la... Ah, il y a la chatroom qui réagit déjà. Hourra, oh. 2020 avec les bras ouverts, clap, clap, bravo. Bon, bah écoute, je pense que t'as
du succès. C'est gentil, ça.
C'est déjà gagné.
Et que moi, j'ai pas le droit de participer à la chatroom parce que tu m'as interdit de taper sur les touches.
Damned.
Salut bon, les écoute, gars.
Vas-y.
Salut la chatroom.
Tape un peu. Bah oui, non, mais tu peux leur parler. C'est pas mal aussi.
Bah non,
mais... N'hésite pas, hein, si tu, pendant l'émission même, on fait intervenir la chatroom et si on a des trucs à leur dire, c'est de toute façon à la bonne franquette ici. Alors, on va commencer donc avec les sujets principaux de l'émission et on commence avec un truc qui est pas hyper marrant, à vrai dire, qui est une sorte d'énorme bad buzz pour Gallimard. Et bon, c'est pas tellement Gallimard qui nous importe dans l'histoire. C'est un jeune homme qui s'appelle François Bon, qui a été un petit peu assailli par les avocats de Gallimard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, qui est un littéraire averti, s'est dit, j'aime bien Hemingway, donc je vais traduire Le vieil homme et la mer, parce que c'est un roman qui est dans le domaine public, donc ça c'est important à préciser, dans le domaine public il est libre de droit. Et il s'est dit, bah, je vais le traduire en français et ça va être un exercice comme ça et je vais le proposer gratuitement sur le site dont j'oublie le nom déjà. Je sais plus, mais c'est sur un site, il voulait le partager gratuitement sur son site. Sur ce, il reçoit un appel de Gallimard qui leur dit, bon, monsieur, vous êtes bien gentil avec votre traduction, mais nous, on a une traduction qui date d'il y a 50 ans et donc on a les droits sur la traduction du vieil homme et la mer. Alors, c'est complètement invraisemblable comme histoire parce que d'une part, le livre en lui-même est dans le domaine public. Et d'autre part, la traduction qu'a fait faire Gallimard il y a 50 ans, en dehors du fait qu'elle soit jugée de mauvaise qualité, ça c'est un autre débat, mais cette traduction est complètement différente de celle qu'a fait François Bon. Elle n'a aucun rapport et elle n'est pas... donc Gallimard ne devrait pas pouvoir interdire à quelqu'un d'autre de faire sa propre traduction du vieil homme et la mer. En tout cas, c'est ce que le bon sens nous dicte. Mais visiblement, Gallimard ne veut pas en entendre parler et a engagé une procédure en justice pour faire retirer le livre, ce qu'a fait d'ailleurs François Bon. Voilà, c'est Publi.net, pardon, qui publie des livres dans le domaine public. Et donc François Bon l'a fait retirer parce qu'il peut pas se battre contre les avocats de Gallimard qui sont un petit peu plus qui ont un petit peu plus de d'argent dans leur poche. Et donc voilà, on est dans une situation où François Bon est complètement sans recours, ou plutôt si, il est avec recours, mais on ne sait pas exactement ce qui va ressortir de cette histoire, mais on est surtout devant une injustice assez terrible, et on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Ce qui est le plus frustrant dans l'histoire, c'est que Gallimard puisse intenter une action en justice sur un truc sur lequel ils n'ont a priori pas les droits. En tout cas, moi, c'est ma réaction. Est-ce que je suis un petit peu en train de m'emporter ou il y a une raison justifiable derrière tout ça, à votre avis, les gars?
Ah, vas-y, Guillaume, je t'en prie.
Bon, bah, oui, j'avais mis mon micro sur mute pour éviter de faire du bruit.
T'as bien raison.
Donc, j'étais en train de parler dans le vide. Je crois qu'en fait, c'est hyper complexe parce que il y a des éléments qu'on ne connaît pas forcément. Lorsque j'ai appris la news, moi, je l'ai lu, apparemment comme toi, sur le site de Corben, qui visiblement a fait quelques mises à jour depuis le début, depuis la publication de l'affaire, puisque visiblement le droit d'auteur le livre serait dans le domaine public au Canada uniquement et pas aux États-Unis, ce qui visiblement change quelque chose juridiquement.
Ouais.
Puisque l'œuvre est toujours protégée par le droit d'auteur en France jusqu'en 2047 apparemment.
D'accord.
Donc c'est pour ça que Gallimard pense à être de bonne foi en demandant ça, et c'est pour ça aussi que c'est Frédéric Bon, c'est ça?
Non, François,
c'est François Bon. C'est pour ça que François Bon pense aussi être dans sa bonne foi, puisque il utilise quelque chose qui est dans le domaine public d'un autre pays. Et toute la problématique est de se dire si juridiquement le domaine public compte pour l'endroit où le livre a été édité initialement, ou si il compte pour n'importe quel pays dans lequel il est édité. Et donc il y a un flou.
La chose serait un petit peu plus complexe que simplement le fait de se dire il est dans le domaine public, j'ai le droit de le traduire.
Voilà, exactement. Par contre, c'est vrai que moi sur le principe, j'aurais eu initialement exactement la même réaction que Corben pour le coup. Enfin, je me serais dit que c'était dommage, mais j'ai tendance à me faire un petit peu l'avocat du diable avec ce genre de choses parce que ma sensibilité propre me fait dire que sur le principe. Je commence à faire un petit peu partie des vieux cons, en quelque sorte, parce que j'ai encore un attachement au papier pour les romans que je n'ai pas pour les magazines, par exemple. Et donc, en plus, Bon, je raconte ma vie, mais mon père est libraire, de quartier
Ah, bah voilà, forcément,
dans
ça,
une
tout
petite commune.
s'explique.
Et si tu veux, lorsque j'ai entendu dire que François Bon avait vendu 22 exemplaires, je me suis dit, mon père, ce bouquin, il doit le vendre en 5 exemplaires tous les 6 mois.
Oui.
Donc, quelque part, 22 exemplaires, faut systématiquement remettre en perspective. Mais bon, c'est évident
Enfin,
qu'à
disons que ça va
l'échelle.
pas couler Gallimard, mais je comprends que sur le principe, ils doivent se protéger
Voilà,
s'ils sont
mais
dans leurs droits.
d'un côté, il faut dire à Gallimard que ils doivent lâcher du lest parce qu'après tout, ils sont énormes et que ce qu'a fait François Bon n'est pas si grave. Et de l'autre, il faut essayer de remettre en perspective en se disant qu'il y a quand même une tendance qui fait que le high-tech et tout ce qui tourne autour du high-tech fait péricliter des petits commerçants.
Ouais. Mais à vrai dire, c'est un petit peu cette sorte d'opposition qui est la plus qui rend l'histoire la plus vraiment complexe, c'est que d'une part, on se dit que ce pauvre François Bon n'a pas fait grand-chose. D'autre part, il y a le fait que Gallimard défend ce principe, et s'ils sont dans leur droit légalement et juridiquement, bah ils sont dans leur droit et voilà. Mais au-dessus de tout ça, il y a surtout, à mon avis, l'une des raisons qui pousse les gens à avoir une réaction aussi violente, c'est que il y a beaucoup enfin, c'est à la suite de toutes les histoires de l'entrée ratée dans le monde du numérique par différentes industries. Et l'impression que ça donne là, c'est que Gallimard est en train de faire rater à l'industrie du livre en général son entrée dans le numérique aussi. On a l'impression qu'ils y prennent pas bien, même s'ils sont dans leurs droits. Enfin, en tout cas, c'est peut-être l'analyse que je fais après cette courte discussion. 2020, toi, ça t'inspire quoi?
Écoute, moi je vois pas mal d'éditeurs et ils sont quand même tous en train de se tourner de près vers le numérique. Ils sont beaucoup plus malins que ce qu'on croit, hein. Ils sont à fond, ils n'ont pas envie de mourir et ils sont réinventés tous les 10 ans. Concernant François Bon, je pense que le fait que ses initiales soient FB signifie quelque chose. Il y a quelque chose de louche.
C'est suspect.
Deuxième chose suspecte, pourquoi ce livre, Le vieil homme et la mer? C'est sûr qu'il allait avoir des emmerdes avec un livre pareil. Non, mais après, non, j'en sais rien. Moi, alors, pareil que Guillaume, comme je suis auteur de métier, c'est vrai que je suis assez attaché, au fait que l'auteur, il puisse vivre de sa plume, et puis donc ses ayants droit, et puis donc les gens qui ont pris des risques et tout ça, et que, a priori, sans réfléchir vite, moi, je suis plutôt du côté des gens qui ont les droits. Et voilà, ça c'est a priori vite. Et en même temps, comme je suis un enfant du web et que je vois l'intérêt de partager au plus grand nombre, je suis toujours dans une espèce de bordel dans la tête. Mais si, visiblement, la traduction de François Bon est tellement bonne qu'il devrait trouver un deal, en fait, je trouve, plutôt que chacun, voilà, ou alors, je sais pas. Puis quand je vois Amazon, moi j'ai mon petit Kindle là depuis Noël où je m'éclate. Ça arrive, ça y est, ils s'organisent tous, il y a des bouquins qui font fortune sur Kindle, sur Amazon. Je pense qu'il y a moyen de trouver un truc, quoi. Donc là, je sais pas, ils ont dû se sentir doublés ou grugés ou je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais je suis partagé
Ben, c'est
comme
vrai
tout.
que non, mais c'est intéressant parce que la réaction première des gens qui, enfin, comme moi, sont très bon. Et puis ça vient après l'ACTA, tout ça, donc on se dit ah merde, ils nous font encore le coup. Et puis bon, à y regarder plus près, on se dit que si c'est une histoire de droit et qu'effectivement les droits sont pas ce qu'on pensait, bon, la situation n'est peut-être pas aussi simple qu'on aurait pu le croire.
C'est ça, parce qu'en fait, comme dit Guillaume, il y a des droits aux États-Unis. J'ai lu rapidos, mais c'est pas les mêmes droits au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc après, tu prends ton bateau, tu te retrouves au Québec, ce que tu fais est légal et tu traverses la frontière, t'es en taule. Enfin bon, avec l'internet, c'est un truc ils ont pas encore attrapé le système, quoi.
C'est sûr. C'est
Mais
sûr. Et je voudrais aussi dire une chose sur un des points que tu as évoqué, 2020, c'est le fait que on est plutôt du côté des ayants droit. Et c'est vrai que je pense que d'une manière générale, tout le monde est du côté des ayants droit. Ce qui irrite les gens qui sont un peu plus portés sur la chose Internet, c'est le fait que ce sont des industries, peut-être un petit peu vieillissantes et qui doivent changer, qui voudraient arrêter le progrès au nom des ayants droit. Et souvent, on se dit que finalement, les ayants droit, en tout cas, c'est ce que je pense, les ayants droit auraient peut-être intérêt à ce que ces industries et ces industriels aillent un petit peu plus dans le sens de la facilitation des échanges et de la commercialisation de ce genre de choses. Et ça aiderait finalement tout le monde, et en particulier les ayants droit. Là, c'est souvent pas très productif ce qui se passe dans ce genre de choses, parce qu'en l'occurrence, s'il faisait un deal avec François Bon et qu'il rachetait la traduction, ou Dieu sait quoi, qu'il puisse être associé à sa commercialisation, je suis sûr que les ayants droit en bénéficieraient plus que ce blocage juridique qui, à mon sens, n'arrange personne, quoi.
Je trouve qu'il y a une sorte de, enfin, on est dans une sorte de charnière où l'industrie du numérique voudrait qu'on soit 20 ans dans le futur et l'industrie culturelle voudrait qu'on soit 20 ans en arrière. Et j'ai l'impression que qu'il n'y a pas de compromission possible entre ces deux industries et que tant qu'on sera dans la période charnière, on s'en sortira pas. Ouais. Et par rapport à l'aspect bad buzz, je crois malheureusement, c'est pas vraiment le terme, mais je pense que Gallimard est suffisamment gros pour pouvoir passer outre ça. Les bad buzz sur le web, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne durent jamais plus d'une semaine ou deux.
Enfin, malheureusement, ça dépend des bad buzz, mais oui, t'as raison.
Moi, j'avais en tête l'histoire du Kit Kat de Nestlé, j'avais en tête également le mec à poil de la Redoute. C'est des choses qui sont très vite oubliées.
Je me souviens d'ailleurs même pas du Kit Kat de Nestlé, mais ça a l'air d'être tout un programme.
Voilà, exactement.
Ok. Oui, non, effectivement, disons que ça va certainement pas couler Gallimard. Je pense que l'analyse la plus judicieuse est effectivement celle que tu fais. On est dans une période complètement charnière. Ces choses se font un petit peu dans la douleur, mais espérons que d'ici 10 ans ou peut-être même un peu moins, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir et on vivra dans un monde merveilleux où l'échange et le commerce feront bon ménage.
Espérons. Ouais.
Autre bad buzz, en parlant de bad buzz, comme vous le savez très certainement, chers auditeurs, notre président s'est déclaré pour la présidence, dans la course à la présidence. On va pas vraiment parler politique parce que c'est pas forcément le sujet de l'émission. Par contre, il y a un truc plutôt tech qui s'est passé au même moment et qui a fait pas mal de bruit. C'est le fait que Monsieur Sarkozy, ayant rejoint le monde de Twitter avec son compte Nicolas Sarkozy, au même moment, il y a les comptes parodiques de Nicolas Sarkozy qui se sont fait, qui ont disparu de Twitter. Il faut être prudent avec les termes parce que tout ça doit être expliqué très précisément pour être juste. Alors, il y avait plusieurs comptes parodiques de Nicolas Sarkozy. Le premier étant _ Nicolas Sarkozy et d'autres ayant des noms totalement différents. Du genre Ma France Forte, ou Sarkozy ça suffit, ce genre de choses. Alors, là, évidemment, la première réaction du monde entier a été de dire, mon Dieu, Sarkozy ou son équipe ont censuré Twitter, ou ont demandé à Twitter de retirer les comptes, et il y a là une claire intention de censure. Ça a discuté pendant quelques jours, tout le monde est parti en conjecture, jusqu'à ce que, d'une part, l'équipe de campagne de Sarkozy s'exprime pour dire qu'il n'avait demandé le retrait que du compte _ Nicolas Sarkozy, parce qu'il pouvait prêter à confusion. Ce qui, bon, pourquoi pas. Et Twitter s'est également exprimé sur le sujet en disant que tous les comptes de Twitter, selon le contrat d'utilisation, le End User License Agreement, devaient répondre à deux conditions si c'était des comptes parodiques. Ils devaient, d'une part, avoir un nom qui ne soit pas le nom complet de la personne ou de la société qu'ils parodient, et d'autre part, indiquer très précisément dans la description du compte qu'ils étaient parodiques. Alors, on pourrait penser que pour le compte _ Nicolas Sarkozy, ils ne répondaient pas à ces conditions. Par contre, les autres, les comptes comme Ma France Forte ou Sarkozy, ça suffit, ce genre de choses, là, il n'y avait pas vraiment de raison de les supprimer parce qu'ils étaient clairement parodiques. Et aujourd'hui, je pense que la chose est un petit peu, comme tu disais Guillaume, le bad buzz est un petit peu en train de mourir parce que la chose a été plus ou moins résolue, mais on est un petit peu dans cette situation où on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ni pourquoi. Le compte Nicolas Sarkozy a, si je ne m'abuse, été réactivé, mais les autres n'ont toujours pas été réactivés aujourd'hui. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, le cabinet de campagne a supprimé les comptes de cette manière pour nettoyer un petit peu Twitter de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de confusion. Et je pense qu'ils ont fait un excès de zèle et qui a en tout cas été perçu de manière hyper négative. Et c'était tout à fait compréhensible parce que ça sentait vraiment pas bon. Il y a peut-être s'il y a quelqu'un qui a perdu son boulot dans la campagne de Sarkozy, ça ne m'étonnerait pas tellement non plus. Une petite réaction à ce bad buzz.
Vas-y, Guillaume, je t'en prie.
Moi, ce que j'ai pas compris depuis le départ, c'est où se trouvait le problème, dans la mesure où sur Twitter, de toute façon, il y avait la possibilité de rendre un compte, de le montrer explicitement comme étant approuvé. Et je me disais qu'à partir du moment où il était approuvé, on savait que c'était le compte officiel. Et s'il n'était pas approuvé, on savait que ce n'était pas le compte officiel. Et donc je me suis dit, on approuve le compte de Nicolas Sarkozy et on se prend plus la tête sur le reste.
Oui.
Je comprends pas pourquoi cet aspect-là ne rentre pas en ligne de compte.
Je pense que l'une des raisons, c'est que si quelqu'un, bon, nous on sait ce que c'est que les comptes approuvés, vérifiés, etc. Mais si quelqu'un, Madame Michu, arrive sur Twitter et dit oh ça a l'air marrant les petits oiseaux, je vais voir notre président. Elle cherche Nicolas Sarkozy. Bon, elle va voir Nicolas @_Nicolas Sarkozy. Elle va pas forcément comprendre que c'est pas le vrai. Et je comprends qu'il y ait un intérêt pour Twitter à avoir effectivement un écosystème propre et compréhensible pour tout le monde, à mon avis.
D'accord. En fait, je trouve que ça apporte deux autres remarques. C'est la première remarque que je voulais faire, c'était déjà que Twitter a tendance, déjà pour tout son écosystème, je parle d'un point de vue technique, tout son écosystème, Twitter, a été, enfin, je m'exprime mal, Twitter a demandé à tous les petits logiciels,
les API,
voilà, les logiciels tiers, de ne jamais porter le mot Twitter écrit en toutes lettres dans le nom. Alors, en fait, ça me fait penser à ça, parce que je me dis, Twitter a déjà utilisé cette méthode pour dire, à partir du moment où notre nom de marque Twitter apparaît lettre pour lettre dans le nom d'une autre application qui est tierce, à ce moment-là, on interdit l'application parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un risque
de confusion. Ouais.
Voilà. Par exemple, c'était TwitterDeck ou je sais plus quel.
TweetDeck.
Ouais, mais TweetDeck, c'est écrit
toujours TweetDeck, oui.
C'est écrit W2ET, donc il n'y avait pas de risque d'utilisation du nom de la marque. Ce que je voulais dire, c'était juste pour mettre en perspective, en fait, Twitter fait déjà un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilisait le mot Twitter dans un compte,
je crois que c'est un petit peu différent, mais je comprends, c'est le même type de souci de clarté, disons. Je voudrais juste répondre à la chatroom. Takaclick nous dit, cherche pas d'excuses, Patrick. C'était clairement une volonté de censure. Je suis pas en train de dire que c'était pas clairement une volonté de censure. Je pense que la censure venait peut-être d'un excès de zèle de Twitter plutôt que de la campagne de Sarkozy. Non pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que c'est une sorte de suicide de demander la censure de plein de comptes. Et effectivement, comme ils le disent dans la chatroom, ces comptes-là, qui ne s'appelaient pas Nicolas Sarkozy, étaient clairement identifiés comme fake. Donc, il n'y avait pas de raison de les supprimer. C'est clairement l'erreur vienne de la campagne de Sarkozy ou de Twitter. C'est clairement une erreur c'était pas justifié de supprimer au moins une partie de ces comptes-là. Donc, je ne veux pas qu'on pense que je suis en train de chercher des excuses à certains ou à d'autres.
Ouais.
Dis-moi, dis, je te sens bouillir, 20-20, vas-y.
Non. C'est-à-dire que moi qui bossais dans un réseau social, donc Sismic à l'époque où c'était un réseau social, c'est sûr que quand tu as des gros clients qui arrivent, tu fais attention, tu les soignes.
Ouais.
Que ce soit Sarkozy ou Hollande ou n'importe quel compte politique ou une grosse entreprise ou une association humanitaire, tu fais attention, tu les traites un peu différemment. Donc je suis pas étonné à la base s'il peut y avoir des relations ne serait-ce que téléphoniques, email entre les chefs de campagne et Twitter. Après, deuxième chose, c'est que quand tu dis ils censurent, tu le sens qu'ils censurent, ils censurent. Moi, ça m'étonne pas non plus que c'est pas de censurer, mais demander le retrait de ce genre de truc, ça me paraît tellement normal. Les mecs investissent leur vie, leur pognon, leur talent, ils emploient des trucs incroyables pour se faire chier à construire une image. Il suffit qu'un type un peu drôle arrive pour, avec un faux nom, faire le truc. Je dis pas que je suis pour, hein. Je dis, je comprends que les mecs, ça les agace et qu'ils font des grandes campagnes de signaler comme spam, signaler comme emmerdeur, et ça ils l'ont fait des deux côtés et de tous les côtés, hein, que ce soit du côté de Hollande, du côté de l'UMP. Je crois pas qu'il y ait eu de genre de gros appel à la censure, mais juste que les mecs surveillent de près parce que c'est pas n'importe quoi comme client, c'est normal quoi. Faut arrêter quoi.
Bah, à vrai dire, non mais c'est sûr, mais il y a quand même une fonction parodique de Twitter et on peut s'offenser du fait que tu vois, si on se dit les comptes parodiques de Sarkozy ou de Hollande disparaissent tout à coup, bon
Patrick, parodique questions. Ouais, mais il y a des règles d'utilisation. Moi je sais que là ça nous fait marrer, ça nous fait chier parce que c'est Sarkozy, mais t'as vu Guy Birenbaum, ce qui lui arrive depuis 48 heures
Du tout.
Voilà, c'est un journaliste d'Europe 1 qui fait chier tout le monde, donc forcément il récupère de son côté des ennemis. Et il y a un type qui crée des faux comptes Guy Birenbaum depuis deux jours, avec juste une lettre qui change, un underscore, un tiret, une majuscule, un truc. C'est vraiment relou, quoi. C'est pas, et on n'est plus dans la parodie, quoi. On est dans « je t'emmerde, je te fais vraiment chier ». Et je comprends qu'une équipe de campagne qui joue son destin sur machin, le truc, ils sont 70 000, quand t'as un mec qui arrive et qui te fait juste vraiment chier, ça c'est saoulant. Après, je défends pas, je dis juste que je comprends les mecs. Mmh. Après, il y a des sites qui sont super drôles, super parodiques, annoncés comme tels. S'ils sont vraiment talentueux, bah pourquoi pas l'annoncer? Quand tu commences à faire jouer le coup de ça pourrait être un vrai, ça trompe plein de gens. Alors Guillaume disait, ouais, mais si... attends deux secondes.
vas-y, c'est comme ça que ça se passe sur le rendez-vous tech. Je t'interromps, tu m'interromps, vas-y.
Non, mais Guillaume, il disait, si c'est un compte à prouver, les gens normalement ne devraient pas se planter. Certes, mais comme tu disais, Patrick, tout le monde n'est pas alerte. Et puis parfois, quand c'est dans un retweet, tu le vois pas. Tu vois vite fait un mec qui a retweeté un truc avec marqué Nicolas _ Sarkozy. Ouais. Tu vois pas le compte d'origine, tu vois un message, tu dis putain, il a dit ça. Et ça va super vite. Donc, moi, je suis pas choqué que les mecs fassent gaffe, quoi. Fassent gaffe à leur nom. C'est sûr. Si on te gaulait ton truc avec marqué Patrick Béja avec 2J et je déteste François Hollande et je vote Sarkozy demain, tu serais énervé, quoi. Tu dirais, non, attendez, c'est quoi le bordel?
Ouais. Entre parenthèses, je précise, moi, je ne m'en cache pas, je suis plutôt de droite que de gauche, hein. Je le précise souvent. Tiens, je vais le dire clairement. Je le précise souvent, et certains peut-être se demandent pourquoi je suis comme ça. Je fais pas du tout de militantiste. Moi, j'écoute tout le monde et je suis complètement ouvert à toutes les idées. C'est simplement, justement, pour se dire, mais on a le droit de dire, plutôt de quelle tendance politique on est et de pas systématiquement se mettre sur la gueule. Moi, je m'entends très bien avec des gens de toutes les tendances politiques. Et voilà, on discute, quoi. Il n'y a pas de raison de se retrouver emprisonné par certaines de nos idées. Mais oui, moi, je pense que ce qui s'est passé, a priori, le scénario le plus crédible, à mon sens, c'est qu'ils ont appelé, effectivement, et ils ont signalé _ Nicolas Sarkozy, et les mecs de Twitter se sont dit, bon, ok, maintenant ça commence, la campagne commence vraiment, on va faire le ménage pour que les gens s'y retrouvent, et en plus, on va soigner machin Sarkozy et Hollande de l'autre côté, parce qu'ils l'ont fait pour Hollande aussi, et certainement pour les autres candidats. Bon, ils ont peut-être fait un petit peu de péché par excès de zèle, parce que certains de ces comptes étaient clairement parodiques, quoi. Donc,
La seconde petite remarque en fait que je voulais faire tout à l'heure, c'est que ça me faisait penser. Là, c'est marrant parce que c'est la même semaine. Alors c'est dans une autre perspective, c'est autrement. Mais à l'imitateur Gérald Dahan qui s'est fait passer pour Éric Cantona auprès de Nicolas Dupont-Aignan sur à la radio. Ouais. Et donc en fait, il a été sanctionné parce que Dupont-Aignan a vraiment cru que c'était Cantona. Et comme c'était une émission de radio en direct et que c'était diffusé, on entendait Dupont-Aignan dire des saloperies sur Sarkozy. Et donc du coup, je me dis, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que pourquoi sanctionner Gérald Dahan, alors que là, pour le coup, tout le monde était bien conscient qu'il ne s'agissait pas d'Éric Cantona, puisqu'il s'agissait on était dans le cadre d'un sketch.
Enfin,
et on
tout
savait
le monde,
pas...
sauf le type qui s'est retrouvé à l'autre bout du fil, quoi.
Oui, mais c'est le principe du canular.
Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on n'aura pas de réponse définitive aujourd'hui. Par contre, un truc qui, je pense, a fait marrer tout le monde et qui, du coup, met tout le monde d'accord des deux côtés de l'arène politique, parce que les deux l'ont fait, c'est qu'au moment où Sarkozy a ouvert son compte, on a découvert une série d'autres comptes qui disaient « Hâte, Nicolas Sarkozy, on est avec vous, allez-y, vous êtes vraiment cool, on vous suit, merci de nous d'être là à nouveau ». Et pareil du côté de Hollande, des messages de soutien par Twitter, des gens qui ont suivi Hollande, bon, et donc d'autres qui ont suivi Sarkozy. Et on s'est rendu compte très vite que énormément de ces comptes-là étaient en fait des comptes qui n'avaient que quelques jours d'existence, qui n'avaient pas d'image d'avatar, donc qui étaient des petits œufs, comme quand on vient de créer un compte sur Twitter, et qui ne suivaient personne, et qui ne suivaient qu'une seule personne, donc Hollande ou Sarkozy. Donc évidemment, c'était des comptes certainement créés par l'équipe de campagne de nos chers candidats pour faire gonfler un petit peu le nombre de retweets et le nombre de followers. Ça fait là non plus pas super propre. On n'est pas encore dans la gestion de campagne magistrale d'Obama sur les réseaux sociaux. Hein.
On y va. Là, je suis d'accord. C'était ridicule. C'était tête d'œuf, là.
Ouais. Corben a fait un article marrant, d'ailleurs, sur les têtes d'œuf de Sarkozy. Bon, allez, on enchaîne. On quitte la politique en France et on va passer à la politique industrielle aux États-Unis avec Google qui espionnerait les iPhones. Il y a eu une histoire absolument énorme la semaine dernière sur Google qui espionnerait tous les iPhones dans le monde pour son profit propre. Alors, c'est un article un tout petit peu sensationnaliste du Wall Street Journal. Généralement, ils n'ont pas l'habitude de faire autant l'appel au clic. Mais là, c'était tourné d'une manière un petit peu exagérée. Mais il n'empêche. Alors, de quoi s'agit-il ? Il semblerait que Google ait utilisé un petit truc pas forcément hyper honnête pour traquer les utilisateurs d'iPhone quand ils vont sur différents sites avec leur iPhone, avec le navigateur intégré de leur iPhone. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents types de cookies sur Internet. Les cookies, donc, c'est ces petits éléments qui vont suivre votre activité. Par exemple, si vous allez sur un site, ils vont se souvenir que vous êtes déjà venu. Et si vous êtes logué ou pas, si vous avez fait quelques recherches ou pas, par exemple, sur différents sites. Et il peut y avoir, par exemple, une publicité qui est affichée sur ce site qui, elle aussi, va vouloir garder des cookies. Le truc, c'est que ces cookies-là, de la publicité qui est donc extérieure au site que vous visitez directement, eh ben, ces cookies-là, ils sont interdits par défaut par le navigateur d'Apple sur iPhone. Et donc, ça veut dire que Google, qui va vouloir vous faire de la pub sur les sites que vous allez visiter, ne va pas pouvoir la faire de manière aussi précise s'il n'active pas ses cookies. Eh ben, ils ont fait une sorte de petite pirouette technique pour pouvoir enregistrer vos informations tout de même, en allant à l'encontre de ce qu'avait explicitement établi le navigateur en question, donc Safari en l'occurrence sur iPhone. Alors, ça a fait un gros scandale parce que clairement c'est quelque chose que Google n'aurait pas dû faire. En plus, aveu de culpabilité, au bout de quelques heures, ils ont arrêté de le faire immédiatement. Et ça a fait énorme scandale parce que encore Google ne respecte pas la vie privée. Google fait ceci, Google fait cela. il faut avouer que là, si spécifiquement on avait dit c'est pas autorisé et que Google le fait quand même, c'est un problème. En même temps, si Google ne peut vivre qu'avec la pub et que avec cette obligation, ils ne peuvent plus du tout faire de pub, on comprend que ça soit un problème pour eux. Je pense que dans les deux, la balance penche plutôt du côté de Google faisait un truc pas super cachère et donc ils ont dû arrêter de le faire. Vous avez suivi un petit peu cette histoire ou c'est pas vraiment votre thèse de thé ?
À toi, Vava.
On te refile la balle. Allô, Vava ?
Pardon, j'avais mis sur mute parce que je mangeais du crunch. Alors, je me suis dit que ça allait faire chier tout le monde. Google, Apple, non, j'ai pas suivi, je suis désolé.
D'accord, mais d'une manière générale, est-ce que toi, ça t'angoisse ? Parce qu'on en a parlé pas mal avec PAF et toutes ces histoires de vie privée et de vie privée qui est de moins en moins privée. Ça t'angoisse, parce que t'es assez public sur Internet quand même. Ouais. Ce genre de choses t'angoisse, le fait qu'on puisse te suivre sans forcément que t'aies donné ton accord ou...
Non, pas du tout, parce que je suis pas angoissé.
Ouais, tu fais partie de ces gens qui, comme moi.
Non, je fais partie d'ailleurs des gens qui, comme je suis sur Internet, la moindre chose que je fais pour moi, elle est publique. Ouais. Même un email. Donc à partir du moment où j'ouvre mon ordinateur, je fais attention. Donc après, je suis pas surpris. Si j'accepte, si j'ai un iPhone, je sais que je peux être géolocalisé. Si j'ai dit oui, je suis sur Google partout, de agenda, de calendar, de tout. Donc je ne m'étonne pas de mes propres surprises, tu vois ce que je veux dire. Et je ne fais pas non plus confiance à l'humanisme de Google ni de Apple, donc je suis pas étonné que Google essaye de pécho des trucs dans mon Apple. Et puis quand j'ai pas envie d'être géolocalisé, je mute le truc. Si j'apprends un jour que ça le fait malgré moi, je changerai de téléphone.
Ouais.
Et voilà, puis je fais gaffe. En gros, après je reproche à personne parce que je suis un grand garçon. Et si un jour on me sort un mail imprimé en disant t'as écrit ça, ah bah ouais. C'est vrai.
C'est un petit peu ce que je dis régulièrement. À partir du moment où vous êtes sur Internet, il faut partir du principe que ce que vous faites ou ce que vous dites pourrait devenir public un jour.
Exactement.
Et donc, il faut agir en conséquence.
Mais tout, quoi. La moindre photo, le moindre courrier, le moindre tout. Voilà.
Pareil. Donc, Guillaume, je suis sûr que toi, tu vas être outré.
Eh ben, pas du tout.
D'accord. Ah, décidément.
En fait, le truc, c'est que pareil, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit quoi que ce soit d'autre, je pars du principe que potentiellement tout ce que je fais sur Internet, sans la moindre exception, est potentiellement récupérable, parce que c'est le principe du web. Donc c'est potentiellement récupérable et potentiellement exploitable.
Ouais.
Il se trouve, en plus, alors je vais être franc, c'est que mon métier, c'est consultant web analytique.
C'est de traquer des gens, en fait. C'est à cause de toi, tout ça, c'est ça?
c'est consultant web analytique, donc forcément...
Et gynécologue, tu nous as pas parlé ton tas de gynécologue.
tout ce qui est cookie avec Google, forcément, c'est la base du fonctionnement.
Ouais.
C'est-à-dire que pour que Google Analytics fonctionne, il faut un cookie. Pour que Google AdSense fonctionne, il faut un cookie. Google AdWords, il faut un cookie. Et il y a une recrudescence des cookies, ça c'est certain. Forcément, on va récupérer des données, on va essayer d'en récupérer le plus possible, on va essayer de faire des publicités qui soient les mieux ciblés possibles. Alors moi, je me dis toujours, si je me retrouvais avec une publicité sur Internet qui soit le pendant de la publicité qu'on a à la télévision, est-ce que je ferais pas la gueule ? Parce qu'au bout d'un moment, je trouve quand même que c'est assez profitable et un moindre mal.
D'avoir des trucs ciblés, tu veux dire, plutôt.
Voilà,
que du...
d'avoir de la publicité ciblée sur Internet plutôt que de la publicité généraliste absolument pas ciblée à la télévision.
En gros, tu veux pas de la pub pour ta lessive dans ton navigateur, quoi. Tu préfères.
Voilà,
sauf
si j'étais sur la boutique d'un magasin en train de regarder des paquets de lessive à la limite. si tu veux. Mais moi, je trouve pas ça tant intrusif que ça. Et par rapport aux données qu'on récupère, à partir du moment où on récupère pas mon adresse postale, mon numéro de téléphone et puis je ne sais quoi d'autre,
Oui, tant que ça reste raisonnable, entre guillemets, ça te va. Et,
voilà.
Et qu'est-ce qui se passe si NoWatch se met à faire de la lessive, hein? Qu'est-ce que tu diras? Non, je déconne. Bon, mais plus sérieusement, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, du coup, puisque personne ne veut y aller. moi, je me dis quand même, en l'occurrence, c'était un truc où il était clairement écrit « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et Google l'a fait quand même. Oh. Et là, on n'est pas, enfin, là, on n'est pas dans le truc où on se dit, ah, on savait pas, on l'a fait sans faire exprès, machin. Ils ont clairement été à l'encontre d'une directive qui était, écrite noir sur blanc. Donc, sur le coup, je me dis qu'ils devraient faire un petit peu plus, enfin, ils devraient arrêter cette pratique d'une part, et puis peut-être essayer de discuter ou trouver d'autres moyens ou faire la pub un petit peu moins ciblée, mais, là, c'était si on accepte, en gros, ça me dérange pas tellement. Mais si on accepte ça, on se met à accepter trop. C'est ça qui me, on se met à accepter d'autres choses, et ces autres choses pourraient être un petit peu gênantes. Donc,
ouais, tu sais, par rapport à ça, Google vient de sortir une nouvelle version de son moteur de recherche qui est entièrement cryptée, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on utilise Google en version SSL, je sais plus trop quoi. Tout ce que tu fais sur le moteur de recherche est indétectable. Donc oui. Google met aussi en place des trucs pour que tu sois définitivement invisible.
Eh ben tant mieux. Eh ben continuons, c'est bien. Faisons ça comme ça. Non, enfin c'est vrai que bon, c'est allez, on va passer à un autre sujet parce que sinon on va pas en parler pendant 2 heures. Et les jeux de mots sur les lessives No Watch sont en train de fuser dans la chatroom. Y en a qui sont pas mal. Encore des trucs sur ces déjà tout propre, c'est déjà fait. Bon, bref, allez, passons. Autre chose, Microsoft s'est un petit peu attaqué à Google aussi, d'une manière pas hyper élégante, on va dire, et c'était tellement pas élégant que je vais pas trop en parler, mais simplement pour signaler qu'on n'a pas oublié l'affaire. Nos rêves de ne pas être traqués partout pourraient se voir réalisés, puisque plusieurs sociétés du web ont annoncé que, sans doute suite à la pression de toutes ces histoires de faux pas et d'erreurs par rapport au suivi des internautes, les principaux acteurs du web ont annoncé qu'ils seraient d'accord pour implémenter une version d'un bouton ne pas me traquer, et que quand on activerait ce bouton sur les navigateurs ou sur d'autres appareils, eh ben on serait pas traqué tout court. Donc quand tu parlais tout à l'heure 20-20 du fait bon bah si je veux ne pas être traqué, je passe en mode discret et voilà, et là je suis, et ben là il y aurait un équivalent, mais pour l'ensemble du tracking de tous les acteurs du web. On n'a pas encore tous les détails de la manière dont ça fonctionnerait, mais comme quoi j'ai l'impression que, en fait, des gens comme toi et moi, 20-20, et peut-être même comme Guillaume, on est quand même spécialement détendu du web. C'est-à-dire que, j'allais dire autre chose, mais pour nous, ça nous dérange pas du tout. Mais je crois qu'il faut être conscient que d'autres personnes, les gens normaux, entre guillemets, ça les dérange pas mal. Et ça les angoisse, quoi. Et même si moi, je comprends pas très très bien pourquoi, parce que j'ai pas l'impression que ça soit véritablement dangereux, il y a cette volonté qui est exprimée par une partie de la population, et il faut l'écouter aussi. Donc voilà, c'est si Apple, Google et d'autres se mettent ensemble et se disent bon bah on va implémenter la chose, ça sera pas forcément une mauvaise affaire.
Bah ouais, non, c'est top carrément. Bah voilà. Ouais, c'est comme les gens qui disent pas de pub dans la boîte aux lettres, quoi.
Ouais, exactement. Voilà. On parlait il y a quelques épisodes d'une liste rouge sociale pour le web. Bah peut-être qu'ils sont en train de la mettre en place en fait.
Mais moi je suis comme toi, j'aime bien avoir des pubs ciblées. Je préfère des trucs qui m'intéressent moi. Ça me dérange pas. Mmh. C'est le prix à payer pour utiliser des services gratuits.
Ouais. Mais c'est exactement choqué, ça. Ouais. Mais c'est même plus. T'as raison. Hein. Moi je dis ça me dérange pas d'avoir ces informations collectées sur moi, dans une certaine mesure, hein, faut rester raisonnable aussi, mais d'une manière générale, ce dont on est, ce dont il faut être conscient, c'est que toutes ces informations sont collectées pour mieux cibler la publicité principalement et mieux nous connaître. Alors oui, ça nous fiche un petit peu, mais d'un autre côté, ça nous permet de nous offrir des publicités plus ciblées et des services plus ciblés. Et donc, ça veut dire que notre expérience d'utilisation de ces services est a priori meilleure. Et comme tu le précises très justement aussi, c'est des services généralement gratuits qui sont offerts pour cette contrepartie. Donc, bah ouais. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi.
Eh ben non.
Eh oui, voilà. Donc, si vous êtes prêt à abandonner Facebook ou à payer pour Facebook, bah voilà, vous avez le choix.
Mais même on peut avoir une approche encore plus technique du problème, c'est que ne pas être traqué, ça signifie qu'on ne saura pas quel type d'ordinateur tu utilises, quel système d'exploitation tu utilises, quel navigateur tu utilises. Et donc du coup, par rapport à l'expérience utilisateur que tu peux avoir lorsque tu vas sur Internet, tu vas te retrouver avec des sites qui ne seront plus capables de déterminer si tu as un écran de quelle taille, plein de petits éléments techniques qui font que esthétiquement, d'un point de vue cosmétique, aujourd'hui, tu te retrouves avec des sites qui sont beaux à regarder parce qu'ils prennent en charge plein de choses que tu ne soupçonnes pas.
Disons que là, je pense que ce que veulent les gens, c'est non pas qu'on ne repère pas ces informations, mais qu'on ne les stocke pas. Tu vois, qu'on les regarde quand tu vas sur le site, mais par contre, on les garde pas pour ta prochaine visite.
Donc, bon. Ben oui, bien sûr.
Ouais. Bon, information suivante, la Cour de justice de l'Union européenne aurait interdit le filtrage des réseaux sociaux. Bon, ça va, on va un petit peu vite en besogne. Disons qu'il y avait un procès qui opposait la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM en Belgique, à un réseau social qui s'appelle, comment s'appelle-t-il donc, Netlog. Et la SABAM voulait que Netlog puisse filtrer c'est son contenu.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial. Plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
De manière à retirer les liens vers des contenus des ayants droit. Alors on revient finalement la question de la propriété intellectuelle est systématiquement au cœur des débats sur le tech. Mais là c'est intéressant parce que ça reviendrait en fait à analyser le réseau social en question, Netlog, et à supprimer certains liens quand ils pointent vers des contenus protégés, des contenus illégaux en quelque sorte. À mon sens, c'est intéressant parce que d'une part, ce rendu de jugement de la Cour de justice pourrait s'appliquer à n'importe quel autre réseau social, voire à n'importe quel site. Ça veut dire que l'administrateur du site n'est pas responsable de ce qui transite par son site ou le réseau pareil. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que YouTube fait déjà ça. C'est-à-dire que YouTube analyse non seulement les différents liens, ça c'est un autre problème, mais les trucs qui sont hébergés chez eux. Et ils analysent de manière très très profonde. Si vous mettez un contenu dont les ayants droit se sont déclarés propriétaires, YouTube va le reconnaître automatiquement et le supprimer. Donc, d'un côté, c'est bien de se dire on va défendre la liberté des réseaux sociaux, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un petit peu idéaliste? Parce que un truc comme Mega Upload, par exemple, qui aurait pu opérer en toute illégalité selon cette règle-là. Donc je me pose la question, je suis pas sûr de savoir comment la prendre. Là encore, ma première réaction, c'est de me dire « Ah mais ok, c'est génial, donc ça veut dire liberté et joie sur Internet pour le partage et la culture. » Et puis en même temps, je suis pas sûr que ça soit bénéfique forcément pour tout le monde et partout, quoi. Là encore, on revient un petit peu au même débat, mais est-ce que vous avez une opinion sur cette histoire spécifiquement?
Je trouve que ça sonne encore très abstrait. J'arrive pas à mettre les frontières sur ce que ça représente, sur ce que ça touchera. J'ai du mal à voir une application concrète de ça. Je trouve que c'est des belles phrases.
Par exemple, sur Twitter, on partage un lien qui s'appelle download.taiwan/avatar je sais pas, avatar, et ça te ramène le fichier avatar. Tu peux downloader le fichier avatar. Et ben là, la société d'ayant droit aurait voulu que Twitter supprime ces liens sur Twitter. La Cour de justice a dit, vous ne pouvez pas exiger de Twitter qu'il fasse la police sur son réseau social de la sorte. C'est bien, c'est pas bien?
Je suis partagé.
Tout de suite.
Alors moi je pense que c'est, alors attends que je réfléchisse. c'est bien, je pensais pas à Twitter de faire ça. Je trouve ça toujours flippant quand on commence à regarder ce que font les gens. On a reçu dans le grand webzé Keops, qui est un hacker, qui nous expliquait Acta, parce qu'on n'est pas très loin là.
Ouais.
Et qui disait, c'est comme si ton facteur, il lisait ton courrier avant de te le remettre, et puis s'il y avait dans ton courrier des trucs qui lui semblaient un peu bizarres, il irait à la police. Oui. Et de la même façon, quand tu posterais une lettre, il regarderait ce que tu as écrit, puis si c'est un peu chelou, il irait te dénoncer. Exactement, même s'il a qu'un doute. Et c'est ce que demande Acta, finalement, aux fournisseurs d'accès, c'est de surveiller ce qu'on fait, et si on échange des fichiers un peu chelous vis-à-vis des ayants droit, de dénoncer. Et donc ça c'est pas bien parce que, alors, enfin c'est pas bien. Théoriquement c'est bien, parce qu'on protège des gens, des œuvres et tout ça. Seulement l'humanité étant ce qu'elle est, l'homme étant mauvais, les dérives sont assez rapides dans l'espionnage, la manipulation, les excès commerciaux, tout le bordel quoi.
Ouais. Donc, c'est effectivement. Pardon, vas-y.
Non, je vais plus ou moins finir.
C'est ça, à vrai dire, qui me dérange un petit peu cette demande de la SACEM belge, et qui est bien dans la réponse, c'est que, admettons même qu'il faille interdire la diffusion de ces liens-là. C'est pas à l'administrateur du réseau ou au FAI ou ce que c'est de faire la police. C'est pas leur rôle et c'est surtout pas à eux qu'on veut donner ce pouvoir. Donc moi je suis plutôt pour cette décision. Je suis d'accord avec la décision de la Cour de justice et je pense que c'est une bonne décision. Et c'est pour ça d'ailleurs, enfin c'est l'une des nombreuses raisons qui fait que moi je suis pas tellement pour l'ACTA. Entre parenthèses, je signalais, c'est devenu une sorte de feuilleton, je signalais à mes camarades auditeurs du Rendez-vous Tech que j'ai écrit à mon député pour lui exprimer mes doutes par rapport à l'ACTA. Eh bien, j'ai reçu une réponse m'assurant que mon député a pris connaissance de mon courrier, me répondant quelques petits trucs, et je vais à mon tour répondre à leur réponse, toujours aussi poliment et toujours aussi posément. Parce qu'il y a une sorte de mini-dialogue qui s'est engagé. Donc bon, si on est, encore une fois, je le répète, hein, mais si on est un à avoir ce dialogue, ça sert à rien. Si on est 1000, 2000 ou 10 000, ça fera peut-être un petit peu une petite différence. À propos de faire une différence, pardon Guillaume, je t'ai pas donné la parole sur le sujet.
J'étais très partagé. En fait, si le principe c'est vraiment de détecter le contenu piraté, clairement, je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Je pensais que ça allait plus loin que ça, et je pensais que ça avait d'autres objectifs. C'est-à-dire que toujours pareil, on en revient à la cybercriminalité, on en revient à la pédophilie et choses comme ça. Et je me disais, sous couvert de ça, ils sont encore en train d'essayer de nous faire passer une loi. Enfin, de nous faire passer tout un fonctionnement pour soi-disant lutter contre la pédophilie, ainsi de suite, alors qu'en réalité, on essaye de récupérer le contenu, enfin, d'interdire le contenu piraté. Bon, dans l'absolu, oui, moi aussi, je suis contre.
Mais jusqu'où faut-il aller pour protéger ces choses-là? C'est toujours la question.
Voilà, et les ayants droit, même si je trouve qu'ils abusent très clairement en permanence à plein d'égards, je me dis, il faut également qu'il y ait un juste milieu. Donc c'est très compliqué, c'est toujours pareil, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, l'ampleur du truc. Si quelqu'un met le pied dans la porte, est-ce qu'il va pas y passer le corps tout entier, quoi, et puis qu'on va se retrouver avec des choses complètement invraisemblables dans 5 ans parce qu'on aura laissé la porte entrouverte 5 ans plus tôt.
Mais c'est marrant, on est quand même hyper mesuré dans ce rendez-vous tech, hein. Généralement, on est outré ou c'est pas vrai, mais on a souvent des réactions peut-être un petit peu plus violentes. Je me demande si on n'apprend pas tous de tous ces débats et qu'on est en train de voir les choses de manière un petit peu plus réaliste qu'idéaliste. Je vais poser la question à la chatroom. Est-ce qu'on vous paraît endormi ou est-ce qu'on vous paraît un petit peu plus sérieux? Ou alors, est-ce que vous êtes hyper déçu et vous voulez
c'est l'effet vraiment enfoiré.
trop modéré, nous dit Lolo Kuhn, trop sérieux, vous êtes devenu sage. Non, c'est intéressant sans être incisif.
Laurent Lutin dit qu'il faudrait inviter Corben, et effectivement, Corben tiendrait un autre discours.
C'est pas. Oh, mais tu sais, souvent Corben est vu comme le porte-drapeau des geeks furieux. Et en fait, pour le connaître un petit peu et pour avoir souvent discuté avec lui, il est quand même très très mesuré et très posé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a souvent ces analyses que je trouve crédibles. C'est parce qu'il est pas toujours, il va pas sur des principes. Il écoute les arguments et il expose ses idées. Donc,
ce qu'il en ressort de son site, c'est ce que je j'aperçois aussi. Mais il est quand même très militantiste même.
Oui, oui, quand il a des trucs dans lesquels il croit, mais il s'accroche pas aux principes quand l'histoire qu'il couvre va à l'encontre de ses principes.
Patrick, si tu veux, moi je te mets en liaison avec un Anonymous ou avec Telecomics ou des gros hackers. Tu vas avoir du sang, quoi.
Ah bah écoute, ça serait intéressant effectivement d'avoir d'avoir le côté du truc, quoi.
Non mais d'un côté tu te marres parce que ton émission elle sera rigolote parce que tu verras des gens qui défoncent et qui voilà. Après je sais pas ce que tu cherches, si tu veux un point de vue général ou des gens qui sont à fond dans le truc. C'est sûr que moi je suis pas dans la techos, hein.
Ah non mais c'est sûr, mais c'est intéressant d'avoir tous les points de vue. Moi je suis toujours intéressé par tous les points de vue parce que je pense que on n'est pas on ne gagne rien à s'entendre répéter ce qu'on pense déjà. Donc
le rendez-vous tech surveillé par les Anonymous, Patrick, va falloir qu'il fasse attention à plein de trucs. Hein.
Bon, en tout cas, je suis heureux de constater que dans la chatroom, les gens sont plutôt positifs. Ils trouvent qu'on est plus posé et plus réfléchi. Donc c'est très bien. J'enchaîne sur en parlant de gens qui font des choses. Vous connaissez Reddit, hein, d'ailleurs on a le Reddit du rendez-vous tech, donc ce site où on peut proposer des histoires qu'on va traiter dans l'émission et on peut voter haut ou bas, etc. Ils ont une communauté hyper active. Et cette communauté a décidé d'écrire le Free Internet Act, donc une sorte de loi qui établirait les règles de l'Internet libre. Et c'est intéressant parce que, évidemment, évidemment, on parlait d'excités et de gens un petit peu jusqu'au boutiste. Bah, évidemment, les gens de la communauté Reddit, ils sont un petit peu dans cette catégorie-là. Et d'ailleurs, ils le revendiquent. Hein, ils disent, on va essayer d'avoir le plus possible, enfin en tout cas de mettre sur le papier le plus possible pour ensuite pouvoir discuter et éventuellement trouver des compromis. Mais ça fait marrer, peut-être, de se dire, ah, il y a des gens sur Internet qui vont écrire une loi. Ou plutôt, ça aurait pu faire marrer il y a 2 ans, mais quand on voit aujourd'hui le contre-pouvoir politique que sont devenus des organismes comme Wikileaks ou Anonymous, pourquoi pas établir une loi de la sur la liberté, sur l'Internet libre depuis le peuple, enfin faire que ce peuple d'Internet écrive cette loi et ensuite la porter politiquement de manière plus sérieuse. Pourquoi pas? Bon, je ne vous dis pas que je pense que ça va arriver, hein, mais ça pourrait. Et si ça peut, et si ça se produit, ça pourrait avoir des effets positifs. Puisque aujourd'hui n'ont de voix dans le processus politique que les hommes politiques et les grandes industries, peut-être que ça serait un moyen de faire porter la voix des consommateurs, ensuite reprise par des associations de consommateurs, par exemple, sur cette scène. J'en entends qui se marre derrière. Là, c'est moi qui ai des étoiles dans les yeux, c'est ça?
Non, c'est beau ce que tu dis, Patrick. Non, mais en fait, je pense qu'il faudrait, être en Islande. Parce qu'effectivement, si on se souvient bien, Julian Assange, à l'époque de Wikileaks, il voulait s'installer en Islande parce que l'Islande promettait à Julian Assange de mettre en place des lois qui donnaient, enfin, qui permettraient une liberté absolue sur Internet, en tout cas au sein de l'Islande. Ouais. Et je pense que l'Islande, avec leur système de parlement populaire, je pense qu'une loi comme ça, si elle était déposée, pourrait passer. Maintenant, en France, aux États-Unis, je pense que c'est complètement utopique.
Ouais. Va, on rêve.
Non, mais moi, dès qu'il va falloir commencer à écrire une loi, ça veut dire qu'il va falloir choisir des gens pour le faire, donc qui va être représentatif de l'Internet. Il y a un truc qui va pas présupposé. Qui va rédiger, qui est le chef, quoi. Enfin, même pour ce projet-là, ça va être bizarre.
Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est le genre d'idée complètement naturelle et à laquelle l'esprit se va vers ce type d'idée immédiatement quand on parle de ce type de projet. Mais de la même manière, moi, si on était venu me voir en 90 et qu'on m'aurait dit, vous savez quoi, on va écrire un programme qui va révolutionner l'industrie de l'informatique, un système d'exploitation qui va révolutionner l'industrie de l'informatique et qui va être écrit par plein de gens dans le monde entier qui ne se rencontreront presque jamais. Chacun va pouvoir changer un morceau quand il veut et au rythme qu'il veut. Et on va en faire un système d'exploitation viable. J'aurais dit, mais attendez, vous êtes gentils les gars, vous rigolez quoi. Vous vous connaissez pas, vous travaillez pas ensemble. Chacun va faire des morceaux là où il veut. Ça rime à rien. Pourtant, ça a donné Linux qui est sur tous les serveurs du monde. Pareil
d'accord,
pour.
Pourquoi faire une loi pour.
Pourquoi
faire une loi pour le dire, enfin.
Mais parce que.
On est libre
gens...
et ça s'est fait, et puis voilà, ça s'est fait quoi.
Beaucoup de gens beaucoup de gens craignent, et peut-être avec raison, que la liberté du net soit menacée. Et quand je dis avec raison, c'est pas juste dans le vide. Quand on voit les lois, certaines lois qui sont proposées comme SOPA et PIPA aux États-Unis, ou même la DOPI qui, bon, franchement, le fait de couper la connexion Internet, pour toutes les questions, les autres questions, on peut débattre. Mais le fait de couper la connexion Internet à quelqu'un parce qu'il a téléchargé des morceaux de musique ou des films, c'est comme couper, pour moi, c'est comme couper l'électricité. C'est quelque chose qui devrait pas vraiment être envisageable. On est dans un autre domaine. On est dans le domaine de l'infrastructure, vitale. Et, alors soit on le met en prison et on le prive de liberté, soit on fait autre chose, mais on peut pas couper Internet. Pareil pour SOPA et PIPA, qui voulaient réorganiser l'Internet, la manière dont est structuré Internet, et qui pourrait faire perdre certains aspects de la liberté du net. Il y a un danger qui est à l'horizon, qui n'est pas encore là, mais il y a un danger qui est à l'horizon de perdre certaines choses qui font de l'Internet ce qu'il est aujourd'hui. Et ça inquiète certaines personnes. Tu dis 20-20, c'est bon, on est libre et voilà, on n'a pas besoin de loi.
Non, mais c'est pas ça. On n'a pas besoin, mais ça change rien. D'abord parce qu'elle passera jamais. Et ensuite parce que si on n'est plus libre, on trouvera un autre système pour l'être. Mais décider qu'on est libre, j'ai peur que ça suffise pas. Les mecs vont bien ricaner, quoi. C'est vrai, c'est génial. Mais moi, je sais pas.
Bon, donc toi, t'es réaliste un petit peu plus que moi, quoi.
Non, je sais pas, ça me fait marrer. C'est comment il s'appelle, Reddit?
C'est Reddit, le site, tu connais pas le site Reddit?
C'est ce qui se passe quand Reddit piaf, c'est ça? Pardon, excuse-moi.
Écoute, Jérôme Kainberg serait fier de toi. On appelle ça, sur No Watch, on appelle ça une borguerie, parce que Jérôme Kainberg est le prince de du petit calembour de qualité, on va dire, pour rester. Guillaume, ouais, t'essayais de dire un truc.
Oui, tout à l'heure je parlais de l'Islande. J'aurais pu prendre également l'exemple de la Finlande qui a fait passer une loi faisant que l'Internet est devenu un droit fondamental en 2009.
Ouais.
Donc c'est clairement jeter une pierre dans l'eau, voire dans l'océan, quoi. Mais bon, sur le papier, c'est toujours beau d'avoir réussi à faire passer une loi comme ça. Maintenant, dans la pratique, je sais pas si ça change grand chose, mais je pense que
je pense que ça change énormément, hein. C'est ce dont on parlait, par exemple, avec une à vrai dire, la loi Hadopi, par exemple, étant va un petit peu à l'encontre de la des directives européennes qui disent que en gros, à partir du moment où tu établis Internet, l'accès à Internet comme un droit fondamental, tu n'as pas le droit d'en priver quelqu'un sans établir qu'il est privé de ses libertés. Tu vois ? Donc,
C'est naturel, ça, naturellement, mais je veux dire, il faudrait être dans des pays très pragmatiques, avec une politique très pragmatique, comme dans les pays scandinaves, où ouais, il y a...
Ils ont des partis pirates au Parlement.
Oui, puis il y a une corruption qui n'est pas la même, et puis il y a une industrie culturelle qui n'a pas la même force, c'est pas le même lobby. Donc du coup, ça passe dans ces pays-là, mais mais c'est des pays scandinaves très pragmatiques, enfin... J'ai du mal à y croire pour pour des pays comme les États-Unis ou la France.
J'ai bien compris. Moi, je suis le seul rêveur du lot. Je vois bien que je suis le seul à y croire, à vouloir y croire, et que vous êtes complètement gris et anti-rêve.
Non. Mais c'est non, pas mais vrai. T'es fou, toi.
C'est pas vrai.
C'est ça, c'est ton rêve, ça. Une loi sur Internet libre, c'est
non, disons
de rêve,
que
Patrick, viens, on va boire un coup. Tu
d'accord.
Voir,
bon, on discutera autour d'une bière. Passons à la dernière grosse news de la soirée, avec Apple qui a annoncé son Mountain Lion, donc qui est la prochaine version de son système d'exploitation. On va pas en parler trop longuement parce qu'on en a déjà fait tout un plat dans l'upload de la semaine dernière avec Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg, justement. Et c'est un petit peu marrant de se dire qu'on en a parlé dans Upload, qui est une émission consacrée à la mobilité. Mais en fait, Mountain Lion va beaucoup plus vers le rapprochement vers la mobilité et vers un système comme iOS sur iPhone ou sur iPad que vers les systèmes d'exploitation traditionnels. Et c'est marrant parce qu'il y a un parallèle assez clair avec Windows 8 qui lui aussi est très 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 tourné vers la mobilité, vers la simplification d'utilisation à l'extrême. Et entre parenthèses, Windows 8 sera lancé au Mobile World Congress, Consumer Preview, donc la dernière version avant le lancement, sera mise à disposition des testeurs au Mobile World Congress pour Windows 8. Donc ça prouve à quel point Microsoft veut associer son nouvel OS à la mobilité. Et donc on a deux géants des systèmes d'exploitation qui sont tous deux en train de réimaginer leur système d'exploitation avec des objectifs plus ou moins similaires, mais des moyens d'y arriver un petit peu différents. Et c'est intéressant qu'ils vont tous les deux dans cette direction et ça montre l'importance de la mobilité. Une chose à discuter peut-être, en tout cas à signaler rapidement, c'est le fait que dans le prochain système Mac, donc Mountain Lion, qui sera disponible cet été, il y aura un moyen dans le système de bloquer l'accès aux applications qui n'ont pas été visées et signées par Apple. Alors, ça a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est une sécurité accrue, puisque ça veut dire que si jamais un programme s'avère être un programme, un malware ou un virus, eh ben Apple pourra le désactiver à distance. Et d'un autre côté, ça fait entrevoir des cauchemars, enfin des systèmes de cauchemars à ceux qui sont adeptes de la liberté dans l'informatique, qui se disent, on n'y est pas encore, hein, mais qui se disent à terme, on pourra imaginer qu'Apple n'autorise plus que les programmes de l'App Store du Mac uniquement et désactive carrément tous les autres programmes du monde entier. Et là, on se retrouvera dans un système aussi fermé que celui qu'on a sur iPhone ou sur iPad. Moi, je me dis, si c'est le prix à payer pour avoir d'une part la sécurité et d'autre part la simplicité d'utilisation qui fait que l'informatique pourra arrêter d'être un casse-tête complet pour 80% de la population, c'est une bonne chose. D'un autre côté, je comprends totalement et tout à fait ceux qui se disent, sans aller jusqu'à c'est un système totalitaire comme le dit Skyviz sur la la chatroom. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que c'est carrément scandaleux parce qu'on a toujours l'option de faire ce qu'on veut. On peut ne pas utiliser un produit Apple. Mais sans aller jusque là, c'est sûr que c'est plus l'informatique telle qu'on l'envisageait il y a une dizaine d'années ou l'informatique de notre enfance. Nous qui sommes passionnés d'ordinateurs, c'est plus la même chose. Là, on est dans des systèmes beaucoup plus fermés, beaucoup plus contrôlés, de consommation d'informatique et non plus autant de bidouillage, d'assemblage, de ce genre de choses. On sait plus tout à fait la même chose. Je vais inviter ceux que le sujet intéresse à écouter le dernier upload, celui, je sais même plus le numéro, mais bon, vous le retrouverez. C'est un upload où on a parlé de ça pendant un bon quart d'heure facile et on s'est un petit peu mis sur la gueule avec Cédric et Jérôme. Et puis je vais vous proposer tous les deux si vous avez un truc à dire sur le sujet, de le faire. Et puis on enchaîne sur la suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le Mobile World Congress.
Guillaume, vas-y.
Bon, en gros, si tu veux, j'ai regardé Upload et j'ai regardé, j'ai écouté Upload et j'ai regardé Geek Inc. J'ai exactement le même avis que Cédric
sur la question. Donc t'es furieux, toi, c'est ça ?
Voilà, pour moi, c'est une limitation technique qui va pousser en plus à renouveler le parc. Donc, si tu te souviens bien, ma marotte dans les précédents rendez-vous tech, c'était de dire que Apple programmait l'obsolescence. À mon avis, ils vont continuer comme ça, puisque maintenant, le nouveau OS sera limité en plus aux machines 64 bits, si j'ai bien compris. Donc, d'un point de vue très technique, il va falloir en plus... il va falloir upgrader, quoi. Il va falloir renouveler le parc. Je trouve que après le mythe qui veut que le Mac ne plante jamais, c'est un prétexte pour
oui, enfin c'est un autre débat là, disons que si on constreint le débat à la...
Non mais si tu veux, je trouve que tout ça, il y a une volonté de normalisation. Elle peut être profitable pour les gens qui n'aiment pas l'informatique parce que pour eux le truc d'appuyer sur un bouton ça va marcher et c'est cool. Là-dessus je peux rien dire, c'est vrai, mais à mon avis d'un autre point de vue,
tu sais, c'est marrant, c'est ça en fait. Le truc que les gens ne comprennent pas avec Apple, c'est que Apple fait des ordinateurs pour les gens qui n'aiment pas l'informatique. C'est ça leur but ultime, si tu veux. Le Mac, et c'est marrant parce que c'est vraiment ironique, quoi. Je me souviens des débats entre Mac et PC à une époque où les gens qui aimaient le Mac l'aimaient parce que c'était une machine simple par rapport au PC qui est une machine compliquée, aux machines sous Windows. Et aujourd'hui, que Apple simplifie encore plus le Mac et va encore plus vers cet idéal qu'ils ont défini il y a quelque temps d'une machine hyper simple, ces mêmes fans de Mac qui l'aimaient à l'époque où il était juste un peu simple, aujourd'hui disent « Ah ben non, là c'est trop simple, ça me plaît plus ». Il y a une sorte d'ironie là-dedans qui est assez délicieuse, je trouve.
Je comprends ce que tu dis. Je me dis juste que si Microsoft se mettait à faire la même chose, ils en prennent un petit peu le chemin avec Windows 8.
Carrément le chemin, oui.
Je pense que à terme, pour tous les gens qui sont plutôt geeks, bidouilleurs, etc., ça va laisser un boulevard énorme, soit à Google, bon, soit à Linux, mais c'est déjà le cas. Mais je veux dire, Linux va avoir de beaux jours devant lui si finalement Windows et macOS se tournent vers ce genre de voilà. Et je pense que même Google pourra commencer à lorgner sur les ordinateurs personnels. Enfin, moi, je trouve que dans l'absolu, cette volonté de normalisation, elle est plutôt destructrice, parce que je me dis, si on pousse le curseur dans cette tendance un petit peu plus loin encore, jusqu'où on peut aller?
Oui, non, mais on va vers des machines qui sont plus des ordinateurs tels qu'on les a connus, en fait. C'était notre conclusion, je crois, dans l'upload. 2020, toi, en tant qu'utilisateur, peut-être un petit peu moins technophile pour la technique, quoi. Ouais. Ça te parle un peu, ce genre de choses, ou toi, tu veux juste un truc qui marche et le reste, tu t'en fous?
Non, moi, du moment que j'ai Angry Birds qui arrive, je suis content. Non, là vraiment, là j'avoue mon incompétence. Moi, je suis un gros fan d'Apple.
Ouais.
Fan. Non, pas fan hystérique, mais j'utilise que des produits Mac parce que j'y comprends rien, que ça marche, c'est canon. Je suis pas étonné qu'ils verrouillent pour avoir leurs applis, pour faire leur pognon, enfin tout ça. Enfin. Ouais. Voilà. Après, j'imagine que pour tout un tas de techos, de geeks et passionnés, c'est énervant, mais moi ça m'en touche pas l'une.
Bah oui, mais c'est un petit peu ça finalement pour les gens entre guillemets normaux.
Ouais.
C'est pas la question n'est pas tout à fait la même, quoi. Donc,
mais non, je suis pas traumatisé, non.
Bon, écoutez, le débat est intéressant à voir et puis je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que Mountain Lion et Windows 8 vont encore faire parler d'eux dans les mois à venir. On va faire une toute petite pause pour parler de notre sponsor et puis on revient avec les news et rumeurs et le Mobile World Congress. Notre sponsor, vous le savez, c'est la boutique NoWatch et la boutique NoWatch, vous le savez, elle est accessible depuis le site NoWatch.net. Alors sur le site NoWatch.net, vous cliquez sur la bannière, enfin sur le lien vers la boutique et là, oh merveille, vous arrivez dans une boutique plein de t-shirts et d'autres articles aux couleurs de votre podcast préféré et de vos podcasts préférés même puisqu'il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous pouvez acheter des trucs, donc vous vêtir et faire plaisir à vos amis, par exemple, et en plus, nous soutenir de cette manière, puisque une partie de la somme est évidemment reversée à notre organisation, NoWatch. Et donc, vous pouvez nous aider à continuer à faire des podcasts et à organiser des événements comme la Comic-Con. Enfin bon, c'est pas nous qui organisons la Comic-Con, mais en tout cas, on y est. On y était l'année dernière et on espère bien qu'on y sera cette année aussi. Vous pourrez nous rendre visite là-bas. Et donc, c'est avec ces sous-là qu'on peut organiser ces choses-là. Donc, merci à vous de nous soutenir sur la boutique NoWatch. Jérôme me dit dans la chatroom, on y sera avec un point d'exclamation. Donc ça veut dire qu'on y sera. Ok, chef. On parlait de la Comic-Con. Bon. Et Tacaclic nous dit, faut vendre de la lessive déjà plus propre dans la boutique. Pas bête, on va y penser. Donc, on enchaîne sur les news et rumeurs. Et là, les news et rumeurs, c'est une partie qui va beaucoup plus vite, où on évoque très rapidement certaines infos qui ne nécessitent pas forcément un long débat. Et si jamais c'est une info qui vous intéresse et sur laquelle vous avez un truc à dire, Guillaume et 2020, eh ben vous m'arrêtez en faisant un bip ou vous tapez sur un clavier ou quelque chose. Et on en discute très rapidement. Je commence donc avec le Mobile World Congress. HTC aurait visiblement tellement peu marché avec Android, non pas parce qu'Android est mauvais, mais parce que Samsung leur a volé leur succès, qu'ils risquent de parier sur Windows Phone. Quand je vous disais que Windows Phone, il fallait pas l'enterrer, ils vont en venir avec Windows 8 et cette année risque d'être plutôt réussie vers la fin de l'année. Orange annonce les premiers téléphones avec processeur Intel pour cet été. Ça sera des téléphones sous Android. Malheureusement, ils seront sous Gingerbread, donc Android 2.3. Pour cet été, ça fait un petit peu tard. Ice Cream Sandwich devrait arriver bientôt. Mais la grande nouvelle, c'est les processeurs Intel pour mobile. Ils vont enfin arriver. On verra ce que ça donne une fois qu'ils seront disponibles. Android, juste... Oui, quelqu'un ?
Non, rien, juste... Non.
Non, d'accord. Ok, bon, on enchaîne. Android, justement, 850 000 activations par jour. Je ne sais pas qui peut encore dire que Android n'a pas de succès. À vrai dire, je crois que personne ne le dit. 850 000 activations par jour, c'est absolument monstrueux. 450 000 applications disponibles et 300 millions de devices dans le monde sous Android. Un succès qui n'est plus à prouver.
Vive Android!
Vive Android, nous dit Guillaume, qui lui est contre l'enfermement Apple. Le rêve du paiement mobile passera-t-il par Facebook? C'est une question qu'on peut se poser puisque Facebook a proposé une série d'évolutions des standards web dont l'un inclurait des standards de règlement par votre compte en crédit Facebook. Donc ça voudrait dire que vous payez par votre téléphone, mais non pas sur votre carte bleue, mais sur avec votre compte Facebook. Si vous avez peur que Facebook en sache trop sur vous, et ben là il risquerait de savoir également ce que vous achetez, donc et vos habitudes financières. Donc les gars, on vous prévient tout de suite. Si jamais vous vous mettez à utiliser ces trucs-là et qu'ensuite vous plaignez que Facebook en sait trop sur vous, je sais pas ce qu'il faut faire, mais on pourra pas dire qu'on vous aura pas prévenu. Hein. Bon, donc le Mobile World Congress, on clôture et on parle
si,
de
j'ai
la...
juste un petit truc. Excuse-moi,
ah ouais, vas-y.
Tu n'as pas parlé du Samsung Galaxy S3. Je l'ai vu dans la liste.
Oui.
Et il est beau. Il est vraiment
super
beau.
C'est vrai que je
l'avais
mis, oui. Mm.
Voilà, il est vraiment super beau. Alors, j'avais déjà vu la photo. Moi, j'ai le Samsung Galaxy S2. Je tenais à dire un petit mot pour dire que... il a l'air super prometteur, il a un écran plus grand, ils sont arrivés à faire en sorte que l'écran touche les bords, ce qui est ça paraît con comme ça, mais enfin c'est assez impressionnant à regarder, quoi. On se retrouve avec un écran qui touche les bords, ce qui n'est pas encore le cas.
Le téléphone est quasiment que un écran, quoi. C'est très impressionnant, effectivement.
Voilà, il y a plus de boutons, il y a plus de boutons en façade. Non, je le trouve vraiment super beau, quoi. Moi déjà le S2 m'avait impressionné, le S3 vraiment il est prometteur.
Android 4.0, quad-core 1,5 GHz, écran de 4 pouces 8, c'est un géant. Oui, il est. Alors, on n'a pas encore de date, hein, si je ne m'abuse, mais en tout cas, c'est un. Beaucoup de gens disent que ça serait en juillet, mais c'est une très belle machine, c'est certain. Et d'ailleurs, je l'avais noté dans le truc, je l'ai sauté bien involontairement. On continue avec des news plutôt marrantes. Bon, avant ça, la fin du boycott du kiosque d'Apple sur iOS. Comme vous le savez peut-être, il y a le kiosque qui vous permet de télécharger automatiquement sur votre iPad ou même sur votre iPhone les nouveaux numéros des magazines qui sont sortis si vous êtes abonné. Les magazines français, la presse française avait fait un boycott de ce système pour différentes raisons. Là encore, on rentre dans les détails dans Upload, mais il y avait des conditions qu'Apple imposait qui ne leur convenaient pas. Et bien malheureusement ou heureusement, en fonction de votre point de vue, les organes de presse en question se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à grand chose, ils voulaient organiser un truc de leur côté et ils n'ont pas vraiment réussi, donc ils ont décidé de mettre fin à leur boycott. Et déjà aujourd'hui, on commence à voir certains de ces magazines qui sont disponibles sur le kiosque sur iOS. Donc, les magazines, si vous aimez ce type de magazine, intéressez-vous au kiosque sur iOS, sur votre iPad ou votre iPhone, parce qu'il commencera à y avoir plus d'offres de la part de la presse française.
Et les organes de presse qui n'avaient pas boycotté Newsstand, en fait, se sont rendus compte qu'en fait, ça boostait effectivement les ventes. Donc, ils se sont dit, c'est un petit peu dommage de boycotter un truc qui pourrait quand même booster. C'était fait pour, ils y croyaient pas. Bon, maintenant, ils retournent leur veste. Je trouve que c'est tant mieux.
Petite news plutôt marrante, les lunettes de Google avec réalité virtuelle surimprimée sur votre vision. C'est un titre que je lui leur attribue. En fait, c'est les lunettes, vous savez, comme Terminator qui imprime des informations sur les lunettes. Donc, quand Terminator, c'était la rétine, hein, mais là, c'est sur les lunettes. Donc, quand vous vous baladez quelque part, vous pouvez voir, par exemple, ça reconnaît le visage de quelqu'un, ça va vous afficher sa dernière update Facebook ou son nom, son prénom, sa date d'anniversaire ou excusez-moi, il y a des trucs qui se cassent la gueule chez moi. Je sais pas ce qui se passe. Non, ça va. Bon. Donc les lunettes de Terminator, tout ça, c'est plus un rêve, c'est bientôt une réalité puisque Facebook va effectivement sortir des lunettes informatisées, sans doute pour une somme pas modique. Et avec des fonctionnalités relativement réduites, c'est un petit peu de l'ordre de l'expérience pour voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est pas encore confirmé, hein, mais c'est une rumeur. Et ça pourrait être un truc intéressant. C'est une expérience marrante, quoi. C'est une expérience marrante.
Ah, moi, je kiffe grave. J'attends, moi. Je vais être le premier.
tu serais prêt, sérieusement, un truc comme ça, tu serais prêt à payer genre 600 € pour un jouet du genre?
J'attendrai peut-être 2-3 mois pour voir si ça marche bien.
Quand même, ouais.
Mais sinon, ouais, je trouve ça délire, quoi.
Ouais. C'est le genre de truc. Il y a quand même des trucs chez Google. C'est comme la voiture qui se conduit toute seule, quoi. C'est des genres de trucs qui font rêver. Et Google, on sent que c'est des vrais geeks qui vont chercher le futur là où il est, quoi. Donc, bon.
Ah bah c'est canon, quoi.
Ça serait marrant. Autre chose pour les plus techniciens et les plus librophiles d'entre nous, Mozilla Marketplace, ça serait une sorte de web store, un petit peu comme le Chrome Web Store, donc des applications web, mais entièrement libres et organisées par Mozilla. Donc, si vous êtes Firefoxophile et que vous aimez la liberté, enfin le libre en informatique, comme quoi il n'y a pas que Apple ou même Google dans la vie, il y a aussi des gens dans le monde du libre qui se bougent et Mozilla en fait partie. C'est une très bonne chose, ça devrait arriver bientôt. Vous savez quoi, on va finir avec deux petites infos marrantes. Une que la chatroom me demande de couvrir, donc on va le faire. C'est à la suite du succès de The Artist aux Oscars. Plusieurs personnes, Mitterrand et Sarkozy, se sont félicités.
C'est très fort, très très
se
fort.
Sont félicités du succès donc du film en question et ont réussi à placer tous les deux une sorte de d'autocongratulation en disant que l'Adopi ça marche et que le succès de The Artist en est une preuve. Bon, je caricature un peu. Disons qu'ils ont dit regardez la culture française est bonne à protéger, donc ça veut dire qu'Adopi c'est bien.
Pour Frédéric Mitterrand, tu caricatures pas du tout, hein.
Oui.
Il a même été pire que ça, hein. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Il a carrément dit que c'était la victoire de The Artist était aussi un petit peu la victoire d'Adopi. Je ne déforme quasiment pas, hein, le propos.
Bon, bah écoute, on va se contenter de dire que le raccourci est un tout petit poil capillotracté. Autre chose, pour ceux qui ne comprenaient pas encore que l'informatique va dans le sens de la simplification à l'extrême, parfois peut-être même un peu trop pour certains, on a eu deux annonces, rumeurs, enfin deux choses qui sont arrivées presque en même temps. D'une part, une rumeur sur l'arrivée d'Office prochaine sur iPad, donc Microsoft Office, une version à part entière de Microsoft Office sur iPad, et la véritable sortie, pour le coup, de Photoshop Touch, qui est une version relativement complète de Photoshop, avec certaines limitations bien sûr, mais qui est beaucoup plus complète que ce qu'on a pu voir dans le domaine de l'édition de photos jusqu'à maintenant sur ces appareils, et qui est plutôt convaincante de ce que j'ai pu en voir, pour un prix modique pour ce type de logiciel, 8 €. On imagine que Office, Word, Excel, tout ça seront à des prix relativement modiques aussi. Je crois que c'est encore une preuve que on n'y est pas encore, mais on est en train de se diriger vers cette informatique. Disons que les tablettes et l'informatique super simple de ce genre-là n'est pas réservé à la consommation d'informations comme on l'avait pensé au tout début. Et on a des pistes insistantes sur le fait que les tablettes du genre peuvent également servir à la création et au travail.
Par rapport à Office, les gens qui suivent un petit peu l'actualité tech commençaient à dire qu'ils se demandaient ce que foutait Microsoft, parce que à force, il y avait toute une pléiade de logiciels qui tentaient de remplacer Microsoft en se rendant compatible PowerPoint, compatible Word, etc. Il y avait des logiciels également, comme je crois qu'il s'appelle OnLive, qui était capable de récupérer le desktop pour le faire apparaître sur une tablette, alors qu'il y a des logiciels Microsoft qui le font. Donc petit à petit, Microsoft a dû peut-être se rendre compte qu'il était temps d'essayer de faire leurs propres applications pour ne pas se faire voler la place par des petites applications qui, au demeurant, fonctionnent très bien quand même.
Oui, il y en a aucune qui est vraiment sortie du lot aujourd'hui, mais ça pourrait arriver demain et il est sûr que Microsoft ferait bien de prendre la place avant que ça n'arrive. Ouais. Tiens, petite question, 2020, t'as un iPad, toi? Tu es fan des tablettes ou?
Ouais, j'ai un iPad, mais je l'ai pas pris 3G.
Ah, d'accord. Mais est-ce que tu penses que le travail sur iPad, c'est quelque chose d'envisageable ou c'est vraiment juste pour consulter ses flux RSS et lire des journaux et voilà? Est-ce qu'un truc comme Office, ça t'intéresserait ou?
Il y a plein de gens qui arrivent, moi j'y arrive pas, je suis pas un fan en fait d'iPad.
D'accord.
Là, je joue très bien avec et je consulte les mails, mais j'arrive vraiment pas à bosser. Mais c'est perso, je vois des mecs qui passent leur temps dessus. Je sais pas comment.
Bah, faudra leur demander.
Ouais.
Bon. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette émission et on est en dessous d'une heure et demie. C'était épique, mais on y est arrivé. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas réussi. On va continuer. On va pas continuer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à 2020 d'une part et à Guillaume d'autre part de nous dire où les auditeurs peuvent les retrouver ailleurs sur Internet ou au hasard à la télé pour certains d'entre vous deux. on va commencer par 2020.
Eh ben, écoute, moi, c'est beaucoup sur Twitter avec mon nom 2020, Veyen Veyen.
Et ça vient d'où, 2020?
Ben, j'avais un blog, j'ai toujours, qui s'appelle 20 sur 20, en fait.
Ah, mais oui, c'est ça, je l'ai vu en plus.
Ouais.
Oui, d'accord.
Je l'ai ouvert en 2004 et c'est devenu 2020. Je l'ai même pas fait exprès. C'est pas moi qui ai décidé, c'est devenu tout seul. Et puis, donc, 2020. Et puis, à la télé sur France 5, une fois par mois. Allô?
Oui, on t'écoute
avec,
attentivement.
Avec François Rollin, dans ouais. Le Grand Webzé.
Tout à fait.
Donc, où on parle de la culture web, en rigolant. Et puis, voilà, Facebook un peu.
Bah,
et
c'est...
puis, de plein de projets. Mais sinon, c'est tout.
Eh bien, plein de projets. Attends, tu nous fais un teasing, là?
Ouais. Peut-être un truc sur scène, peut-être. On va voir.
Ouh, attends. Ouais. Un truc sur scène? Parce que moi, j'ai vu ton intervention à TEDx à Paris,
ouais.
Là, qui... Je savais pas que t'étais carrément un littéraire auteur, un vrai, quoi.
Ben ouais, non, mais moi, c'est à la base, je suis un littéraire.
T'écris, toi.
Hippocagne et tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Là, j'ai donc plongé dans un monde de fou avec les techs.
D'accord. Mais donc, peut-être sur scène.
Ouais, dans l'esprit TED, justement.
D'accord. Ok, bon bah écoute, on suivra ça donc avec attention.
Bah écoute.
Et c'est 2020 un petit peu partout.
Ouais, c'est ça.
Guillaume, quid de ton activité en
Alors moi c'est sur statosphere.fr, si vous aimez les statistiques, le web analytique, l'e-marketing, l'e-business, le référencement, toutes ces questions-là, ça se passe sur statosphere.fr. Pour Twitter, c'est le compte statosphere et je ne passe pas à la télé.
Mais écoute, je passe pas à la télé non plus et ça va plutôt pas mal quand même. Par contre, il y a une partie de l'émission qui est sur iTunes. Quand je dis une partie, c'est la partie la plus importante, les avis des utilisateurs. Vous pouvez faire comme Jean-Philippe Ancos qui nous a dit un épisode 80 qui cartonne avec 5 étoiles et qui nous dit « De par mon métier, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis très longtemps et voici 5 étoiles pour ce fabuleux podcast et cet excellent épisode 80. Les news sont pertinentes, pas de vieux, même déjà répétés de 100 fois. L'analyse de Patrick est très précise et intelligente, sans partir dans des envolées lyriques de 20 minutes. » Là, je pense que t'es plutôt gentil, Jean-Philippe, parce que il m'arrive de partir dans des envolées lyriques. Bon, allez, on va dire 5-10 minutes plus que 20. La contre-analyse de Jeff et son regard VCs US super intéressante. En bonus, dans l'épisode 80, on découvre un peu plus de le métier de Jeff. C'est un plaisir de Google pluciser l'épisode et d'y ajouter quelques commentaires. Merci, un grand bravo. Et continuez. Merci à toi, Jean-Philippe. Vous savez, on vous le dit à chaque fois, les commentaires sur iTunes, ça nous aide pas mal parce que ça permet de faire remonter l'épisode, le podcast dans les classements iTunes et donc à d'autres personnes de nous découvrir. Donc, si vous avez 2 minutes à perdre, vous pouvez faire ça et ça nous aidera. Pour ma part, c'est sur patrickbeja.com si vous voulez me suivre ailleurs sur les réseaux sociaux. Et pour tout le monde, ça sera le prochain épisode du Rendez-vous Tech dans 2 semaines, toujours sur nowatch.net. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur nowatch.net/RDV. Ça vous amène directement vers les épisodes du Rendez-vous Tech. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On vous fait de grosses bises et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!
À bientôt!
Salut, merci Patrick.